Dans ce journal, on ira à Teahupo où Vaine Fiero a été éliminé ce matin par sa compatriote Joanne Defay. On fera aussi un point sur les trois grèves toujours en cours et on parlera finances pour terminer ce journal. Et le journal de la mi-journée, c'est avec Caroline Perdry. Bonjour Caroline.
Bonjour Damien.
Alors, on va directement passer bien sûr à ce que vous attendez tous ce matin, les Jeux Olympiques sur Radio 1. Et l'actualité à Teahupo, c'est cette immense déception.
Oui, la déception de tout le Fénois et même probablement au-delà. Vaine Fiero, grande favorite de l'épreuve olympique après sa victoire à la dernière Tahiti Pro, a été éliminée ce matin en huitième de finale contre une autre Française, Joanne Defay. Et pourtant, Charlie René, il y a eu matière à espérer.
Et oui, espérer d'abord parce que le passé jouait en la faveur de la Polynésienne qui a survolé son premier tour alors que Joanne Defay, pas réputée à l'aise dans la passe de Havaé, avait connu une entrée en lice catastrophique et même sanglante après une mauvaise chute près du récif. Espérer aussi parce que vous l'avez dit, Vainé connaît ce spot par cœur comme elle l'a montré en y dominant l'élite mondiale du surf pas plus tard qu'en avril. Joanne Defay, elle, n'y a jamais accédé au tableau final, en tout cas à la Tahiti Pro. Et puis espérer enfin parce que Vainé était bien rentrée dans sa série, marquant malgré les petites vagues désordres donner les deux meilleurs scores de la première partie du hit. À ce moment-là, Caroline, tout le monde espérait encore voir la surfeuse de Vainé en quart de finale.
Seulement voilà, Joanne Defay s'est bien relancée et elle a surtout bien profité des conditions, Charlie.
Et oui, il faut dire que la réunionnaise de 30 ans, ça n'est pas n'importe qui. Numéro 6 mondial, ancienne numéro 3, multiple gagnante d'étapes sur le Championship Tour de la WSL. Et ce qu'elle sait faire, c'est des manœuvres. Mais quand on est très près du récif, comme ce matin, 5.0, 4.0, ces rollers très engagés paient auprès des juges, alors que Vainé, pas aidée par son stance goofy dans ses manœuvres face à la vague. Donc, elle continue à chercher le tube victorieux, celui qui a fait sa force par le passé dans cette passe de Havaé. Le plus frustrant pour le public, c'est qu'elle a failli le trouver, ce tube, au moins à deux reprises. Une vague qui se ferme très tôt, trop tôt, et surtout une chute à laquelle elle devrait penser pendant un moment. Joanne Defay profitera jusqu'au bout de ses priorités. Score final 9.0 contre 7.54. Caroline, la fin du rêve olympique pour Vainé Fiero.
La fin pour l'instant, en tout cas, puisque Vainé se dit bien décidée à se parer d'or un jour pour les Jeux Olympiques, à sa sortie de l'eau. Vainé Fiero a tout fait pour garder son sourire que tout le monde connaît désormais, mais entre l'ovation que lui a réservée la fan zone lors de son passage en jet ski et les interviews à répétition, difficile de ne pas éclater en sanglots. Mais malgré la déception, la championne garde un mental de combattante. Écoutez.
Félicitations à Joanne, c'est une compétitrice très expérimentée. Je savais que peu importe qui allait gagner, on allait apprendre de l'un de l'autre et c'est ce qui se passe là maintenant. C'est sûr que je suis hyper triste de perdre ces jeux à la maison, mais je sais que Teahupo m'a toujours donné les plus belles leçons de ma vie et je sais que voilà, ça fait partie d'une des étapes que je devais traverser aujourd'hui. Et même si c'est dur et que c'est pas ce que je voulais, ben des fois c'est comme ça et on apprend, on grandit et on revient plus fort.
Vainé Fiero qui a bien sûr salué sa concurrente et coéquipière en équipe de France, Joanne Defay. Hors de question pour elle d'attribuer cette défaite aux seules conditions météo.
Pour le coup, je me suis beaucoup entraînée cette année pour pouvoir surfer toutes sortes de conditions et être à l'aise à Teahupo, peu importe ce que la vague nous donne. Et c'est juste que je pense que dans cette série, je suis tombée 3 fois d'affilée sur des très bonnes vagues, des tubes qui auraient bien scoré, mais je suis tombée. C'était compliqué, hein, les vagues. Trouver le tube, j'ai réussi à les trouver, mais c'est juste que être dans le tube, ça bougeait beaucoup et j'ai pas su tenir. Mais je pense pas que c'était la pression. Je me sentais à l'aise dans l'eau, j'étais bien, j'étais prête à faire des manœuvres, à faire des tubes. Mais c'était juste que c'était assez compliqué sur l'eau.
Et bien sûr, les deux compétitrices se sont chaudement saluées après le hit, enlacées même. Elles se connaissent très bien parce que depuis plusieurs jours, elles partagent le même logement à Teahupo, mais aussi parce qu'elles s'admirent mutuellement. Vainé le sait, Joanne a la plus belle carrière du surf et de loin. Joanne, elle n'a jamais douté du talent de sa jeune concurrente, surtout sur ce spot, on l'écoute.
Vainé, c'était l'athlète à un peu abattre ici, c'est la plus forte, elle nous l'a déjà montré. On a décidé de rester sur ce que je sais faire, les manœuvres d'abord et après gérer les tubes en fonction de l'évolution de la série. Et à l'inverse, je pense que Vainé est restée sur ce qu'elle sait faire et clairement elle n'a pas eu forcément de chance non plus. Donc voilà ma stratégie à payer sur ces 30 minutes. Je sais que ça va pas la réconforter, mais elle avait pas besoin de gagner une médaille aujourd'hui pour nous montrer qu'elle était la patronne ici. Fantastique tout ce qu'elle a pu faire, tout le travail qu'elle a mis là-dedans. Et je sais que c'est une énorme déception, mais ça va la rendre plus forte.
Voilà les mots d'amitié de Joanne Defay qui affrontera donc dès cet après-midi, juste après 15h, l'américaine Carissa Moore, 5 fois championne du monde, 12 fois sur le podium du Championship Tour. Bref, un très gros bonnet qui a balayé l'israélienne Anat Leiler. Parmi les autres qualifiées en quart dans ce tableau féminin, Caroline Marks va affronter Taylor Wright, l'espagnole Nadia Herostarbe qui devra composer avec Tatiana Weston-Webb, ainsi que la brésilienne Luana Silva contre la costaricaine Brisa Hennessy. Voilà pour les filles, les Tannées, eux, s'apprêtent à commencer leur quart de finale, vrai, avec un duel nippo-péruvien pour commencer. Mais ce n'est c'est celui que tout le monde attend. C'est l'autre bataille fratricide de ce jeudi, le Français Johan Duru contre son coéquipier polynésien Kaolivas. Ce sera normalement à 13h48. Les horaires ont été décalés. On joue pour une place en demi-finale, pas très loin d'une médaille donc. Et Kaoli a parmi ses soutiens Vainé, qui promettait tout à l'heure d'être au premier rang pour encourager le dernier local de la compétition.
Ouais, ben je suis là pour soutenir Kaoli surtout qui est notre favori local et je lui donne tout mon mandat pour gagner ces jeux. On a travaillé hyper dur tous les deux.
Voilà, et vous pourrez suivre la suite de cette journée olympique au PK0 puisque Radio 1 et Thierry FM sont sur place pour vous faire vivre ces Jeux Olympiques.
Et toujours du côté de Taupo, un gros hic du côté des juges, Caroline.
Oui, un hic qui montre qu'on ne badine pas avec les règles olympiques. Il y a une règle plutôt simple pour les 11 juges qui officient sur cette épreuve de surf. Aucun contact avec les athlètes et leurs équipes. Surtout, alors quand l'International Surfing Association a vu sur les réseaux sociaux cette photo du juge australien Benjamin Lowe avec ses compatriotes Ethan Ewick et son coach, la Fédération mondiale a vu rouge. Comme le journal L'Équipe l'a confirmé ce matin, le juge en question a tout simplement été écarté du reste de la compétition. L'ISA a même expliqué dans un communiqué qu'un rappel au règlement avait été fait à tous les officiels. Ça ne rigole pas à Taupo.
On parle budget avec l'adoption hier du troisième collectif budgétaire.
15 milliards en fonctionnement, 10 milliards en investissement, soit 25 milliards en tout. C'en est fini des 13 milliards restants de l'exercice précédent. De 228 milliards au budget primitif, le budget du pays a atteint à présent 346 milliards, soit une augmentation de 52%. La faute au manque de cap et à l'inertie consternante du gouvernement, dit le Tapura, qui s'est abstenu. On écoute Tepuari Teritei.
Ben, on arrive à ça lorsqu'on n'était pas bien préparé sur le budget primitif, parce qu'effectivement, lorsqu'on avance à vue et que finalement on n'a pas de vision à long terme, on ne le fait pas après pas. Et donc, ce qui est prévu finalement au début, c'est du rafistolage. Et puis on continue de rafistoler au fur et à mesure des différents collectifs. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon intervention. À partir du moment où on ne sait pas où on va, forcément on ne fait pas la programmation et la prévision nécessaire en temps voulu.
Pour Moetai Brotherson, c'est surtout l'héritage des gouvernements précédents qui explique ce delta.
Ce qui s'est passé, c'est tout simplement le rattrapage de certaines choses qui n'ont pas été faites pendant 10 ans. On va prendre l'OPH. Beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements, beaucoup de réalisations, mais rien d'inscrit au budget. On vient inscrire au budget ce qui est nécessaire pour à la fois terminer les opérations qui étaient engagées, faire tout ce qui est maintenance et entretien, et on a 3,9 milliards d'AP nouvelles pour des constructions nouvelles.
Enfin, les trois élus non inscrits de Haereia Polynetia ont voté en faveur de ce collectif. Nuiha Olore veut voir le verre à moitié plein.
On espère qu'il y a des choses qui vont être faites. Je pense que c'est le sens de tout le travail qui a été effectué pour nettoyer les autorisations de programme et les crédits de paiement. Après, derrière tout ça, il n'y a pas eu vraiment d'annonce nouvelle dans ce collectif. Et là, il suit en cela le premier et le deuxième collectif. Puis des écritures qui étaient aussi nécessaires pour doter des actions publiques qui étaient envisagées, mais qui n'avaient pas les crédits nécessaires. C'est pour ça qu'on a voté favorablement. On n'est pas dans une démarche d'opposition systématique.
C'est à toi.
Le ministre de l'Éducation a exprimé sa colère et sa tristesse aussi à propos des enseignants polynésiens qui n'ont pas de poste au Fénoua.
Grony Teripaya a fait le point hier dans l'hémicycle sur la situation des 67 lauréats polynésiens des concours de l'éducation nationale. 8 d'entre eux se retrouvent aujourd'hui sans affectation locale pour leur année de stage, alors qu'on a les postes pour les recevoir, assure le ministre.
On a réussi à affecter une quarantaine d'entre eux ici. Bon, certains n'ont pas eu de poste parce qu'il n'y a plus de poste, il y a des filets qui sont saturés. Il y en a qui sont découragés parce que c'est trop compliqué pour se séparer de sa famille. Donc il y en a qui demandent un report de stage ou il y en a même qui démissionnent carrément. Et il y a 8 qui ne sont pas affectés, qui étaient affectés ici au départ, puisqu'on a les postes pour les recevoir. Et à la dernière minute, la DGRH a décidé de les maintenir en France. C'est complètement injuste. Vous imaginez la fausse joie, la tristesse, c'est révoltant.
Ronnie Teripaya qui dit sa colère et sa tristesse donc dans l'hémicycle et regrette l'absence de soutien du vice-recteur Thierry Terray.
Et les trois grèves en cours ne sont toujours pas finies, Caroline.
Non, même pas celle à l'OPT où les responsables ne sont finalement pas satisfaits du courrier de Moïta et Brotherson tant attendu. Valdemar Delage, vous êtes au CESEC où les leaders syndicalistes ont donné une longue conférence de presse.
Oui, Caroline, alors nous vous l'annoncions hier, l'intersyndicale qui milite toujours pour les retraites des fonctionnaires d'État, c'était le sujet principal ce matin, qui milite contre le mécanisme de remplacement de l'ITR, eh bien ils ont décidé de ne pas appeler à la grève aujourd'hui, comme le laissait présager le préavis. Ils regardent désormais du côté de Paris, mais ça pourrait être long. Alors en effet, ils ont pu échanger ces derniers jours avec le haut-commissaire et la ministre déléguée aux Outre-mer. Leur objectif est de faire présenter à l'Assemblée nationale par les trois députés un amendement qui proposerait un système alternatif qui permettrait de faire correspondre leur retraite à 75% de leurs revenus, ce qui est le cas pour les métropolitains, mais ce ne sera pas le cas des Polynésiens qui ne pourraient toucher que 30% au moment de la suppression définitive de l'ITR. Tout ce qu'on veut, c'est l'équité et l'égalité avec les métropolitains. Voilà ce qu'ils ont encore martelé. Ils misent pour ça sur la fenêtre de tir inédite que constitue la dissolution de l'Assemblée nationale et attendent désormais la rentrée parlementaire puisqu'ils espèrent voir une majorité se constituer pour revenir sur la dernière réforme des retraites. Mais on l'a dit, il faudra pour cela attendre plusieurs semaines. Les représentants comptent sur le soutien de l'État sur cette proposition, ou du moins que le gouvernement central ne s'y oppose pas. Ils disent n'avoir reçu aucune garantie de la ministre sur ce point-là, mais avoir ressenti de l'écoute. En ce qui concerne le préavis de grève en lui-même, les syndicats ont expliqué qu'il s'agissait d'une manière d'interpeller la ministre lors de sa venue au Fénois. Ils ont souligné qu'il n'était pas question pour eux de gêner les Jeux Olympiques ou encore les examens de fin d'année, Caroline.
Et ce point presse était aussi l'occasion de revenir sur les autres mouvements sociaux en cours.
Oui, du côté d'ADT, la situation est au point mort, nous dit Patrick Galnon, côté CFP-PFO. Il a accusé la direction de demander beaucoup. Il a aussi accusé le président du pays de se défausser et reproche au commissaire de ne pas avoir voulu répondre.